sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 15 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, retrouvailles hier entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Gbagbo et Bédié. Bamako suspend toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. L'armée togolaise reconnaît avoir tué par erreur 7 civils pris pour des djihadistes lors d'une récente explosion dans la préfecture de Tone. Le président américain Joe Biden, aujourd'hui en Arabie Saoudite, après ses entretiens en Israël et dans les territoires palestiniens. En Ukraine, 23 morts dans des frappes russes sur une ville. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, atterré. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Côte d'Ivoire, la rencontre au sommet entre les trois poids lourds de la scène politique, le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, a eu lieu hier au palais de la présidence. Les détails avec Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Au sortir de cette rencontre, c'est l'ex-président Laurent Gbagbo qui a été désigné par ses aînés pour lire la déclaration issue de leurs échanges.
Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire.
À son tour, le président Alassane Ouattara a repris la parole.
Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent.
Il a promis de faire de rencontres régulières avec ses prédécesseurs si leur temps le permettra. Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, le ministère des Affaires étrangères vient de notifier à la MINUSMA la suspension de ses rotations des contingents militaires et policiers, y compris celles déjà programmées et annoncées. Mohamed Danyoko.
L'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés le dimanche dernier par les autorités maliennes n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Après la phase des communiqués où gouvernement malien et ivoirien se rejettent la faute, le ministère des Affaires étrangères du Mali vient, à travers une lettre adressée à la MINUSMA, de suspendre ses rotations de militaires et de policiers en attendant la réunion de coordination qui va, selon les termes employés dans la lettre, essentiellement dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents opérant au sein de la MINUSMA. Au sein de la population, ils sont nombreux à estimer qu'il s'agit juste d'une réunion pour arrondir les angles et être au même niveau d'information. Le ministère des Affaires étrangères, dans sa lettre, a rassuré de la volonté du gouvernement à travailler afin de lever au plus vite cette mesure de suspension afin de permettre à la MINUSMA de mettre en œuvre sereinement son mandat. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Les forces armées togolaises ont déclaré jeudi être responsables d'une récente explosion qui a tué 7 civils et en a blessé 2 autres, après les avoir pris pour des djihadistes. Le chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Dadja Maganawe, a conclu hier qu'un avion avait visé à tort les civils. L'explosion s'était produite dans la préfecture de Tone, près de la frontière avec le Burkina Faso, où une insurrection djihadiste sahélienne menace de s'étendre au pays côtier d'Afrique de l'Ouest. Les troupes togolaises sont déployées dans la zone pour tenter de contenir un débordement de la menace djihadiste. 44 migrants ouest-africains, 29 hommes, 12 femmes et 3 jeunes filles ont été secourus la semaine dernière dans le nord du Niger alors qu'ils voulaient entrer en Libye, a annoncé l'ONU hier à Niamey. Le 6 juillet, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence nigérienne de protection civile ont secouru les 44 migrants bloqués dans le désert depuis 2 jours après avoir été abandonnés par le conducteur suite à une panne de véhicule, explique l'OIM dans un communiqué. Ils ont été conduits dans un centre de transit pour migrants de la ville de Dirkou où ils reçoivent une aide humanitaire essentielle selon l'agence onusienne. Des décès causés par la faim ont été signalés dans la région de Karamoja, dans le nord-est de l'Ouganda, a annoncé hier le bureau du Premier ministre. Le point avec Rosine Mounezero.
En tant que gouvernement, nous reconnaissons la situation de famine à Karamoja, où nous avons des informations faisant état de décès causés par la faim, a déclaré un porte-parole de la Première ministre, Robina Nabanja, au lendemain d'une rencontre avec des élus de la région. Aucun chiffre n'a été donné, mais selon une députée locale, il pourrait se compter par centaines dans cette région reculée frontalière du Kenya et du Soudan du Sud, en proie à la sécheresse. Des milliers d'enfants et de personnes âgées courent toujours un risque élevé de mourir de faim, a alerté Faith Nakut, la députée. Selon un rapport mené par le gouvernement ougandais et l'ONU, au moins 518 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans la région de Karamoja. Les communautés Karimojong vivent d'élevage et d'agriculture, mais depuis des décennies mènent une vie précaire, rythmée par les attaques liées au vol de bétail, suivies de représailles, et le changement climatique a fragilisé un peu plus leur existence.
Au Maroc, pompiers et militaires s'efforçaient tard jeudi de maîtriser plusieurs foyers de feu qui ont progressé pendant la journée dans des régions boisées isolées du nord du royaume, selon les autorités locales. Ces feux de forêt ont provoqué l'évacuation de près de 500 familles à titre préventif dans les provinces de Larache et Taza.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après 2 jours d'échanges ouvertement chaleureux avec les officiels israéliens, le président américain Joe Biden aborde ce vendredi un versant bien plus délicat de son premier voyage au Moyen-Orient. Les territoires palestiniens pour un entretien avec Mahmoud Abbas et surtout l'Arabie Saoudite. Monsieur Biden, qui se félicite d'avoir rétabli des liens coupés par son prédécesseur Donald Trump, devrait annoncer des financements destinés aux Palestiniens. Monsieur Biden a salué hier la décision historique que représente l'ouverture de l'espace aérien saoudien à tous les transporteurs. Un apparent geste de bonne volonté envers Israël annoncé alors que le président américain est attendu en Arabie Saoudite ce soir. Il va s'y entretenir avec des responsables saoudiens et aussi assister à un sommet des alliés du Golfe. Le point, Nanit Talani.
Tous les regards sont rivés sur l'interaction du locataire de la Maison Blanche avec le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman, qui, selon la CIA, est probablement à l'origine du meurtre en 2018 du journaliste dissident Jamal Khashoggi, un ressortissant saoudien et résident américain assassiné à Istanbul en Turquie. Suite à cet assassinat, Biden avait déclaré que le royaume devrait être traité comme un État paria. Son administration s'est éloignée de cette position ces derniers mois, alors qu'elle fait pression sur Riyad pour faire augmenter sa production de pétrole afin de réduire les prix très élevés. Selon des responsables américains, ce voyage de Biden au Moyen-Orient pourrait produire plus d'étapes vers la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, deux des alliés les plus puissants des États-Unis dans la région. Il vise aussi à promouvoir la stabilité régionale, à approfondir l'intégration d'Israël dans la région et à contrer l'influence iranienne.
En Italie, le Premier ministre Mario Draghi, affaibli par la défection d'un parti de sa coalition, a présenté sa démission hier soir, démission aussitôt refusée par le président du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit atterré et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles atrocités jeudi après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine, très éloignée des lignes de front qui ont fait au moins 23 morts, dont 3 enfants de moins de 10 ans, ainsi que de nombreux blessés. 3 missiles ont touché le parking et un immeuble commercial abritant des bureaux et de petits commerces, selon l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte ouvertement terroriste. Les grands argentiers du G20 ont entamé ce vendredi une réunion en Indonésie qui devrait être dominée par les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'économie mondiale au moment où l'inflation accélère et où les perspectives de croissance s'assombrissent. Au Sri Lanka, le président du Parlement a annoncé vendredi la démission du président Gotabaya Rajapaksa, qui est démission qui a été acceptée après la fuite à l'étranger de ce dernier. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le déficit budgétaire s'est creusé au premier trimestre 2022. Les dépenses publiques ont augmenté de 18% à plus de 2600 milliards de francs CFA par rapport aux recettes à presque 2200 milliards de francs CFA. Ce sont les dépenses d'investissement et les intérêts dus sur la dette publique qui ont le plus augmenté. Pour financer ce déficit, les autorités ivoiriennes ont eu recours au marché sous-régional où ils ont mobilisé plus de 1 000 milliards de francs CFA. Au Cameroun, au centre commercial Place, qui a ouvert ses portes le 5 juillet 2022 en face du palais des sports de Yaoundé, 4600 produits locaux sont proposés sur les étals avec un réseau de 400 fournisseurs dont la majorité opère dans l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat. Le dollar s'est envolé hier, repassant temporairement le cap de la parité face à l'euro et atteignant des records face à d'autres monnaies, galvanisées par la perspective d'une politique monétaire durcie aux États-Unis pour limiter l'inflation. Selon les experts, les marchés parient sur des hausses de taux de la réserve fédérale plus élevées, la Fed cherchant à contrer l'inflation qui a atteint 9,1% sur un an en juin aux États-Unis.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les oppositions des demi-finales de la CAN féminine Maroc 2022.
Oui, le Nigeria fera face au pays hôte, le Maroc. Hier en quart de finale, le champion en titre nigérien a fait le service minimum, s'imposant 1-0 devant le Cameroun. Dans le dernier quart de finale, les Bayana d'Afrique du Sud ont disposé des Tunisiennes sur la même marque, 1-0. Elles affronteront la Zambie en demi-finale. Ces demi-finales se disputeront le 18 juillet. Les demi-finalistes seront les représentants du continent à la prochaine Coupe du Monde féminine, prévue en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Début ce vendredi des mondiaux d'athlétisme ici aux États-Unis.
Ça se passe à Eugene, dans l'Oregon. Ce soir vont se disputer les séries du 100 mètres. Les espoirs du continent reposent sur les épaules de Ferdinand Omanyala, le sprinteur kenyan détenteur du record d'Afrique du 100 mètres, est le troisième meilleur performeur de l'année dans cette épreuve avec ses 9 secondes 85 centièmes. Retour sur le parcours de celui qui cherche à révolutionner l'athlétisme kenyan, connu pour ses performances en demi-fond et en fond. Nanit Talani.
En 6 ans d'une fulgurante ascension, il s'est fait un nom au pays où les coureurs de demi-fond et en fond sont rois. Ferdinand Omanyala et son entraîneur Duncan Ayemba, ici à une séance d'entraînement au stade Kasarani de Nairobi, veulent changer le regard porté sur l'athlétisme kenyan.
Dans un pays où l'on pratique la course de fond, même la fédération n'a pas cru à un moment donné qu'il pouvait y avoir un sprinteur au Kenya. Il faut surmonter toutes ces difficultés pour devenir un sprinteur. Je crois que j'ai ouvert la voie à tant de personnes qui sont venues derrière moi. C'est l'une des choses que je voulais faire, laisser un héritage.
L'athlète de 26 ans porte 2 bracelets au poignet droit. L'un avec l'inscription 9 secondes 85 centièmes, son meilleur temps de la saison réalisé début mai. Sur l'autre, on peut lire 9 secondes 77 centièmes, le record d'Afrique qu'il a établi 8 mois plus tôt, 9e temps de l'histoire. Ces chiffres résument la dernière année du sprinteur kenyan qui s'est révélé au plus haut niveau international en attendant de briller sur les 100 mètres lors des Mondiaux 2022, puis aux Jeux du Commonwealth. Outre son modèle, le Jamaïcain Yoan Blake, il y retrouvera surtout les Américains Fred Curley et Trayvon Bromell, les deux seuls à avoir couru plus vite que lui cette saison sur 100 mètres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le chef des militaires au pouvoir, Mahamat Diby, s'en est pris violemment à Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères des États-Unis, pour avoir introduit le 11 juillet au Sénat une résolution en faveur de la démocratie au Tchad. Le sénateur américain a demandé au général Diby et aux autorités de la transition tchadienne de s'engager à organiser des élections cette année conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidat. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Il faut que les gens sachent qu'on est en 2022, le temps où des petits fonctionnaires travaillant dans les ambassades qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu.
Le général 5 étoiles Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition. Le sénateur américain, lui, s'est dit fier de faire une proposition de résolution critique affirmant le soutien des États-Unis à un dialogue national crédible et inclusif axé sur le retour de l'ordre constitutionnel et au rétablissement d'un leadership civil. Mahamat Idriss Déby n'a pas mâché ses mots.
Le Tchad est un pays souverain. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Et de sur quoi un sénateur qui traîne des casseroles.
Pour les acteurs politiques, le général est allé trop vite en besoin. Et puisque le sénateur américain ne fait que rappeler aux membres du Conseil militaire de transition le respect de leur engagement.
Le rappel de la parole donnée ne mérite pas en retour ni des déconsidérations, ni des verbiages qui font monter les enchères de manière inutile.
L'opposant docteur Succès Masra, pour lui, la souveraineté qu'évoque le président du Conseil militaire de transition est à géométrie variable.
Lorsque le Qatar a demandé au Tchad de différer l'organisation du dialogue sur la date duquel le PCMT s'était pourtant fermement engagé, je n'ai pas entendu qu'on ait rappelé au Qatar que ce n'est pas au Qatar de dicter au Tchad la manière dont le Tchad doit organiser son dialogue. Les partenaires qui viennent travailler dans notre pays, nous n'avons pas besoin de les traiter ni des petits fonctionnaires, ni des gens qui ignorent la réalité du Tchad. Je conseillerais à mon jeune frère de s'entourer davantage de diplomates qui pourraient lui conseiller peut-être un meilleur choix des mots, tout en sachant que oui, le destin du Tchad, c'est entre les mains des Tchadiens et des Tchadiennes.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, la réaction du président du Conseil militaire de transition est un aveu pour la conservation du pouvoir militaire.
La réponse est très passionnée parce que le simple rappel ne peut pas amener à cette colère qui transparaît dans les propos du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il aurait dû simplement saluer cette coopération pour la démocratie et la liberté et tout simplement de laisser le porte-parole du Conseil militaire de transition de reconfirmer leur engagement. Le refus de confirmer l'engagement et d'être irrité par le rappel de note de leur volonté de conservation du pouvoir et c'est dommage.
Peu avant cette polémique, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad avait déjà demandé au Conseil militaire de transition à tenir leur engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Une déclaration qualifiée par Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, l'ancien parti au pouvoir d'opportune et qui, selon lui, s'apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique consensuelle et apaisée de la transition en cours. André Kordoumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Bénin, les boulangers pensent devoir utiliser la farine de céréales et de tubercules locales dans la fabrication du pain. Le conflit russo-ukrainien a entraîné la cherté et la rareté du blé, ce qui incite les professionnels du secteur à explorer de nouvelles voies de production. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le pain est très prisé au Bénin, même si ces derniers temps, il faut débourser plus pour en acheter. Les boulangers avancent comme argument la rareté, donc la hausse du prix du blé. Face aux récriminations des consommateurs, certains pâtissiers et boulangers proposent la production à base de céréales locales. Gassien Djagbouni est un acteur politique, mais également un boulanger de renommée qui a fait l'expérience de l'introduction des céréales locales dans la production du pain.
La farine de manioc incorporée jusqu'à concurrence de 5%, aucune incidence, tout se passe bien. Quand on dépasse le cap de 5%, ça demande plus de technicité et plus de savoir-faire. Au niveau de la farine de riz, j'ai été agréablement surpris de voir que jusqu'à hauteur de 50% d'introduction, ça se passait très bien. Sur la problématique de la farine de maïs, jusqu'à concurrence d'introduction de 10% de la farine de maïs dans la production du pain, vous ne pouvez pas le constater. Tout se passait très bien. Donc, il faut même qu'on vous informe.
Malgré ces résultats, certains boulangers ont du mal à se faire à l'idée, car pour eux, il faut un préalable avant d'imposer un tel changement dans l'habitude alimentaire des Béninois. Alain Quenome est boulanger.
Il nous faut la disponibilité de la matière première dans le temps pour que lorsque nous allons commencer progressivement à donner des habitudes aux consommateurs, qu'on puisse maintenir l'offre. Nous sommes quand même une économie à ne pas négliger. Les chiffres relatifs à l'importation de la farine de blé, ce n'est pas des montants qui se chiffrent en millions, mais en milliards.
Francis Rediblay, boulanger de profession, n'est pas contre l'utilisation des céréales locales, mais pose beaucoup de questions préalables qui sont jusque-là sans réponse.
Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons. C'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? Un. Deux. La farine locale, là, faut la rendre disponible.
Pour la nutritionniste Merveille Adou-Siba, les Béninois n'ont pas à se préoccuper des apports nutritionnels du pain à base de céréales locales.
C'est une bonne initiative, les farines locales. D'abord, ce sont nos produits locaux. Quand nous prenons le pain fait à base du blé, vous savez que son glucose, c'est du gluten. Mais quand vous prenez le pain fait à base du manioc, son glucose, c'est de l'amidon. Mais les deux sont tous deux des polysaccharides. Si vous respectez la portion qu'il faut là, ce n'est pas encore inconvénient pour la santé.
En dehors de son apport nutritionnel, le pain à base de céréales locales peut être un véritable levier sur le plan économique. Les associations des consommateurs appellent le gouvernement à se pencher sur la question de façon sérieuse.
Quand nous allons rentrer dans cette production, cela suppose qu'on aura des producteurs locaux qui vont engager des ouvriers. Ça veut dire qu'économiquement, pour régler les questions d'emploi, pour accompagner la consommation locale et développer la micro-industrie, parce que les moulins qui vont se charger effectivement de moudre ces céréales seront encore les moulins qui seront au plan local.
Même si le consensus a du mal à se faire, la cherté du blé finira par forcer la main aux boulangers qui hésitent encore et aux consommateurs qui agitent l'excuse d'apport nutritionnel pour bouder les rares boulangeries qui proposent du pain à base de farine de manioc, de riz ou de patates douces. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Depuis 6 ans, les Maliens attendent le redémarrage du train. C'est finalement mercredi qu'a eu lieu le premier essai, au grand bonheur des populations, de Bamako à Kaï, à la frontière avec le Sénégal. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est en présence des cheminots, de l'ensemble des travailleurs et de nombreux curieux que la Société du patrimoine ferroviaire du Mali a procédé à l'essai blanc du train transport voyageurs entre Bamako et Kaï. Ayant été à la tête de nombreuses marches et de manifestations pour la reprise du train, c'est avec une joie mesurée que Mamadi Dramé salue cet essai.
Ça, c'est des locomotives reconditionnées qui peuvent peut-être permettre de commencer le trafic voyageurs, mais nous, on a besoin aujourd'hui d'aller au-delà du trafic voyageurs parce que le train ne doit pas se limiter uniquement à un aspect social. Il faut que l'aspect économique aussi rentre en jeu, qui va permettre en tout cas de sauver un peu nos routes. Parce que si toutes les marchandises doivent passer par les routes, je pense qu'elles n'auraient pas le temps de durer escompté.
De Bamako à Kita jusqu'à Kaï, en passant par Maïna, partout sur le long du trajet, les populations des villages sont sorties pour manifester leur joie et saluer cette reprise qui va permettre la reprise de l'activité économique. Présent à la gare de Maïna, à l'arrivée du train, Diankunda Traoré, promoteur de la plateforme web Bafoulabé 24, raconte l'ambiance à l'arrivée du train.
Depuis le matin jusqu'à maintenant, nous sommes ici. Personne n'est allé à la maison. On est resté à l'attente vraiment du train. Et quand le train est arrivé, on l'a touché. Il y a des gens même qui sont rentrés. Il y a des gens même qui ont amené leurs fils, leurs petits-fils, vraiment pour leur montrer le train. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés. Il y a ceux-là, 2 à 3 ans, qui n'ont pas vraiment vu le train, qui n'ont pas connu le train.
Cet essai blanc a permis de tester la locomotive, les ouvrages d'art et les rails. Si les populations sont contentes de cette reprise imminente, elles n'oublient pas les causes qui ont conduit à l'arrêt définitif du train il y a 6 ans et souhaitent qu'elles ne se reproduisent plus. Mamedi Drami.
Parce que le train, ce n'est pas que les locomotives, ce n'est pas les rails, les ouvrages d'art, les voitures seulement. Le train, c'est tout un système. Le train, c'est ce qu'on appelle la gestion. Parce que c'est la mauvaise gestion qui nous a mis dans cette situation. Donc nous sommes très heureux de cet essai blanc et nous allons mettre tout en œuvre pour accompagner les autorités de la transition afin qu'il y ait un démarrage définitif et que le train ne s'arrête plus.
Cet essai n'est qu'un début. Des locomotives sont attendues pour permettre, dans les jours à venir, au train de siffler de Kita à Tokoto en passant par Tintiba pour finir sa course à Kaye, la cité des rails. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain Joe Biden discute principalement de la stabilité régionale, des prix du pétrole et de la relance d'un accord sur le programme nucléaire iranien. Pour leur part, des défenseurs des droits humains appellent M. Biden à aborder aussi les circonstances entourant la mort des journalistes Jamal Khashoggi et Shirin Abu Akleh. Le point avec Cindy Shane de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
Le président Joe Biden a atterri à Tel Aviv hier, première étape d'un périple de 4 jours. Après des rencontres avec des dirigeants israéliens et palestiniens, le chef de l'exécutif américain va mettre le cap sur l'Arabie Saoudite. La sécurité israélienne et régionale est un objectif majeur. Des analystes croient que le voyage du président Biden au Moyen-Orient pourrait conduire à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais la présence du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman lors d'une réunion à laquelle doit participer le locataire de la Maison Blanche a provoqué de vives critiques. Pour certaines ONG, il s'agit d'une gifle pour les droits de l'homme. Agnès Calamar est secrétaire générale d'Amnesty International.
What President Biden is doing is suggesting.
Ce faisant, le président Biden est en train de suggérer que les droits de l'homme ne valent pas grand-chose et peuvent être négociés pour une gamme d'objectifs et de résultats. Cela brise à bien des égards la vision que le président Biden a offerte au monde après l'agression de l'Ukraine par la Russie.
La tournée du président américain en Arabie Saoudite est vue comme un recul par rapport à la promesse de Joe Biden de mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine et de faire du prince héritier saoudien un paria sur la scène internationale après l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. John Hirsch est le directeur des programmes de Democracy for the Arab World Now, une organisation à but non lucratif fondée par Khashoggi avant sa mort.
You know, I think this is terribly disappointing for...
Je pense que c'est terriblement décevant pour l'Arabie Saoudite, les défenseurs des droits humains, les dirigeants de la société civile. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement judicieux en matière de décision de stratégie et de politique. Je ne pense pas que cela profite aux États-Unis.
Les États-Unis et l'ONU ont trouvé indépendamment des preuves montrant l'implication directe du prince saoudien dans l'assassinat de Khashoggi, des accusations que le prince nie en bloc. Une autre polémique concerne la mort de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie le 11 mai dernier. Avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, la Maison-Blanche a indiqué que la famille de la journaliste avait été invitée aux États-Unis pour s'engager directement avec le président.
Les experts qualifient de difficile la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président. Quant au groupe de défense des droits humains, ils passent à la loupe chaque poignée de main et chaque mot du président.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde, Michel Joseph, et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.